Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, j'aimerais nouveau partager avec vous sur ce même thème de l'assurance, avoir de l'assurance. Déjà, la dernière fois, j'ai parlé de l'assurance et on avait donné ce titre « Vous pouvez avoir de l'assurance ». On avait vu trois points. D'abord, j'avais commencé à expliquer qu'il y avait une différence entre souhaiter, espérer et avoir de l'assurance, hein, si vous vous rappelez. Donc sinon, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas entendu encore, on fait un rapide rappel. On peut souhaiter plein de choses, hein, qu'il fasse beau demain, des choses comme ça. On peut espérer certaines choses, mais dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, pour certaines choses, on doit avoir de l'assurance, on doit être sûr de ce qu'on croit. Et donc, on avait vu que les premiers chrétiens avaient de l'assurance. Dans Actes 13, il nous est dit que les anciens des Juifs et des hommes importants du peuple d'Israël, ils étaient étonnés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et dans Actes chapitre 4, verset 13, hein. Donc on avait développé trois points par rapport à l'assurance. Je rappelle ces trois points. Le premier, c'était l'assurance du salut. Et chaque fois, on avait vu un passage biblique qui vraiment appuyait ce qu'on était en train de dire. Parce que c'est ça qui est important. On peut avoir toutes sortes de croyances, d'opinions, d'avis, mais à un moment donné, il faut que notre assurance soit basée sur quelque chose de solide. Et qu'est-ce qu'il y a de plus solide que ce que Dieu a dit ? C'est ça qui est solide. Tout le reste, il nous est dit dans la Bible que même les choses visibles, elles vont passer. Mais des choses invisibles vont demeurer éternellement. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pense habituellement. Les meubles, tout ce qu'on touche là, ce qu'on voit autour de nous, on a l'impression que ça c'est du solide, ça tient. Mais on voit rapidement que sans entretien, il y a beaucoup de choses qui se dégradent dans la nature et qui se détériorent. On peut même penser, si vous regardez des montagnes, des rochers, en ce moment, depuis trois semaines, il y a une émission « La plus belle région de France ». Alors, jeudi soir, c'était les falaises d'Étretat en Normandie, que c'est vraiment magnifique, comme ça a été sculpté, hein, ces immenses rochers. Et ça, on aurait pensé, ça c'est du costaud, hein. Alors, même ça, il subit l'érosion. Alors que dans des choses de la parole de Dieu, bien, elle demeure éternellement. Et pour nous, donc, on avait vu que l'assurance du salut, être sûr qu'on est enfant de Dieu, ben on peut le lire dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. « Or voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Donc on voit tout de suite, on peut dire ça attaque fort, Dieu nous a donné la vie éternelle, pas on essaye de l'avoir, on fait nos efforts, c'est il nous l'a donné. Et ensuite c'est expliqué clairement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est pas entre les deux ou un petit peu. Et au verset 13, « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Que vous sachiez, donc que vous ayez cette assurance et que vous pouvez donc le savoir et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Donc l'illustration, on avait dit par exemple, un enfant, une fois qu'il est né, ben, il est là. On ne dit pas, il est en train de venir. Il y a un moment où l'enfant grandit dans le ventre de sa maman et à un moment, il est né. Donc pour nous aussi, à un moment, on est né dans la famille de Dieu. De la même façon que deux personnes sont mariées, elles sont mariées. On ne dit pas, si on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es marié, peut-être, je ne suis pas sûr, j'aimerais bien. On le sait, soit on l'est ou on ne l'est pas. Donc de la même façon, il faut avoir cette assurance. Deuxième assurance qu'on avait vue, c'est l'assurance de l'exaucement. Donc on avait vu qu'il y avait une évolution dans les prières. Au fil des pages de la Bible, il y a une révélation de plus en plus. Et il y a un moment charnière, quand Jésus est venu sur terre, il a commencé à enseigner un certain nombre de choses, mais certaines choses étaient encore de l'ancienne alliance, puisqu'il n'était pas encore mort et ressuscité. C'est ainsi qu'il a donné le Notre Père, qui est un bon canevas de prière, qui constitue un des choses intéressantes et très importantes pour notre quotidien, mais on avait vu qu'il y a quelque chose de plus qu'il a transmis à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 24. Il est dit, jusqu'à présent, donc jusqu'à ce moment précis de l'histoire, vous n'avez jamais pu demander en mon nom. On voit Abraham prier au nom de Jésus, même si c'était le père des croyants. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui s'établit. Maintenant, vous pouvez utiliser mon nom. Maintenant, vous pouvez agir en mon nom. Et c'est ce qu'il est en train de leur expliquer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Complète, ou d'autres versions disent parfaite, ou d'autres versions disent mûre. Une joie arrivée à maturité. La joie qui est immature, c'est quelque chose va bien, je suis dans la joie. L'instant d'après, quelque chose ne va pas, je suis de nouveau complètement découragé. Or, la joie qui est parfaite, c'est de réaliser qu'on a cette relation avec Dieu. Demandez, vous recevrez. Mes prières sont entendues. Et la troisième assurance qu'on avait vue, c'est l'assurance du pardon. Personne ne peut dire qu'il est parfait, qu'il n'a jamais fait de faute ou d'erreur. Mais quand on les reconnaît, alors on peut trouver le pardon en s'adressant à Dieu. Reconnaître, c'est aussi ce mot souvent traduit par confession. Confession, alors quand on entend le mot confession, on pense confession des péchés. Confesser, ça veut dire la même chose qu'eux. Donc, si moi je confesse mon péché, je parle de la même façon que Dieu. Si Dieu dit mentir, c'est un péché, si je confesse un mensonge, ça veut dire je reconnais que ce que Dieu a dit sur le mensonge est vrai et que je me reconnais coupable, et c'est comme ça que je peux obtenir le pardon. Ça, c'est un des aspects de la confession. Un autre aspect, justement, qui peut être traduit par le mot reconnaître. Alors, 1 Jean 1:9 dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que Dieu serait injuste s'il ne nous pardonne pas nos péchés alors qu'on les aurait confessés. C'est fort quand même ça. On peut, quelque part, on peut s'adresser à lui en disant « Tu es un Dieu juste, donc tu dois me faire justice. Tu dois littéralement me pardonner les péchés. » On n'est pas dans un contexte d'exigence par rapport à Dieu, mais on se passe vraiment sur la justice de Dieu, puisque Jésus a parfaitement satisfait à la justice de Dieu. Donc, alors, comment on peut le savoir, si on a le pardon ou non? Ben, uniquement sur la base de 1 Jean 1:9 et de versets comme ça. C'est pas, est-ce que je me sens pardonné, ou est-ce que je me sens coupable, ou est-ce que ceci... Vous ne devriez jamais venir à Dieu en disant, Seigneur, j'ai encore fait ça. Même si vous l'avez répété au cours de votre vie. Parce que les anciens péchés qui sont confessés et pardonnés sont oubliés de la part de Dieu. C'est quelque chose qu'il peut faire. La Bible dit, il oublie, c'est effacé, il n'en tient pas compte. Donc voilà, péché c'est tout ça, c'est rater le but, c'est manquer quelque chose que Dieu voudrait faire pour nous ou qu'on pourrait faire avec lui. Alors j'aimerais continuer aujourd'hui avec vous dans ce sujet. Et j'aimerais donner ce titre « Toujours plus d'assurance ». Donc on peut avoir certaines assurances, mais c'est comme dans le domaine des assurances. Vous pouvez avoir une assurance minimum ou une assurance multirisque ou tout risque. Et de la même façon, dans notre vie, il y a plusieurs facettes. Il y a des choses dans notre vie chrétienne où on est sûr, et d'autres, il faut qu'on se batte. Et curieusement, c'est comme ça, on n'est pas tous les mêmes, donc là où c'est fort pour toi, c'est peut-être faible pour moi, et vice-versa. Donc le corps n'est pas homogène, dans le sens qu'on est tous pareils. Et 1 Corinthiens 12 détaille le corps, on dit, voilà, on n'est pas tous œil ou main ou pied, mais Dieu nous a disposés dans le corps, et on a donc certains aspects où il faut qu'on y travaille, et pour d'autres, c'est facile. Donc voilà, il y a dans les domaines des péchés et des tentations et des choses comme ça, c'est vrai aussi. C'est pour l'un c'est facile dans un domaine et pour l'autre c'est une vraie bataille. Donc quelles que soient les choses que je vais citer, on pourrait dire oh, c'est pas mon problème. Bah, tant mieux si c'est pas ton problème, mais tu l'as peut-être ailleurs. Il y a aussi Comme quand vous achetez quelque chose, des fois il y a des vices cachés, hein, on appelle ça, cette expression. Donc il y a des choses que des fois ça peut paraître évident pour tout le monde, ça se voit. Si quelqu'un a un mauvais comportement, s'il parle de façon grossière, s'il dit tout le temps des jurons, ben voilà, c'est évident pour tous. Et pour d'autres, ben, ils vont jamais faire des choses comme ça. L'extérieur, c'est tout propre. Mais Jésus a dit, vous ressemblez, pour certains, comme à des sépulcres blanchis. Vous êtes bien nickel à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements et de trucs en décomposition. Je vous fais pas le tableau, mais c'était l'idée générale. Et que, un homme est venu en priant se frapper la poitrine, aie pitié de moi, et l'autre disait, oh, je te rends grâce, je ne suis pas comme les autres, je suis meilleur. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on n'est pas fort. Donc, toujours plus d'assurance. Dans la Bible, on lit dans le Proverbe, chapitre 28, un verset que j'aime spécialement. Il est dit au verset 1, « Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Et donc, une autre version dit, « Tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. » Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu pour vrai des lions en liberté ou d'autres, mais dans un reportage peut-être, au moins, vous avez vu une meute de lions. Donc il y a toujours il y a un mâle dominant, il y a beaucoup de lions, il y a les petits, et donc les lions ils fonctionnent comme ça. Mais quand certains jeunes lions commencent à grandir, alors ils se sentent forts, et ils veulent montrer leur force, même si à l'extérieur peut-être ça paraît évident qui c'est le chef, mais ils contestent, ils se lancent dans la bagarre, ils se battent pour avoir la place du vieux lion qui est peut-être un peu en train de s'affaiblir. Et donc c'est un peu ça, cette image biblique des lions et cette image du juste. Il se lance, le juste, il se lance comme un jeune lion. Il est fort, il est sûr de lui. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour nous aussi, on devrait s'imprégner de cette image. Voilà ce que la Bible dit du juste. Le juste doit avoir cette assurance. Alors une des assurances que nous pouvons donc rajouter à notre liste des assurances, c'est l'assurance de la victoire. C'est donc, ce sera notre quatrième point, l'assurance de la victoire. Souvent, on entend des choses négatives du style « Ah, c'était trop fort pour moi, là, je peux rien faire contre, c'est impossible », toutes sortes de choses. Et donc, il y a des domaines dans lesquels la Bible nous assure aussi que nous pouvons avoir l'assurance de la victoire. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Le mot « tentation » dans ce texte peut être très bien remplacé par « épreuve ». Ça donnera peut-être une autre forme dans certaines situations. Donc, vous pouvez le lire, on le lira des deux façons. Donc, « aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc avec épreuve, ça donne la chose suivante. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu ne va jamais nous envoyer dans une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont complètement découragés, des gens qui veulent se suicider par exemple, c'est des gens qui se sont laissés obséder par des pensées d'échec semées par l'ennemi de nos âmes. Mais en réalité, Dieu dit ici, non pas qu'il nous prépare des épreuves, certaines épreuves sont simplement des choses qui nous arrivent dans la vie, hein. Ça n'a pas été spécialement orchestré pour notre sanctification, mais c'est simplement, c'est là devant nous, il faut l'affronter. Mais il nous est dit que Dieu n'est jamais pris de court. Quand quelque chose arrive, il dit pas, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va s'en sortir? Non, il a déjà depuis longtemps préparé quelque chose qui nous aide. Mais donc, c'est aussi cette notion quand il est dit, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, je ne sais pas quelles sont vos épreuves, on ne va pas faire maintenant des tours de table et de je ne sais pas quoi, où chacun va dire ces choses qui ne vont pas, mais quelles sont tes épreuves que tu dois affronter? Quelles sont les tentations auxquelles tu fais face? J'ai déjà dit, pour certaines choses, c'est peut-être facile pour l'un ou l'autre d'entre nous, ne vous focalisez pas sur là où vous avez déjà réussi. Mais si vous voulez progresser, il faut prendre à bras le corps d'autres situations que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Donc que ce soit la peur, la maladie, des défauts, des fois c'est aussi des choses qui nous limitent, comme le regard des autres, le qu'en pensera-t-on, le rejet. Donc chacun aimerait remporter la victoire dans un ou plusieurs domaines. C'est dommage de passer à côté et de se dire, c'est comme ça, pour le reste de ma vie, je serai toujours handicapé dans telle ou telle situation. Alors j'ai pensé aussi par rapport à la tentation, parce que c'est un sujet très très porteur qui brasse des milliards et des milliards. Un exemple d'actualité dans notre saison, juste en début d'été, c'est perdre du poids pour être belle sur la plage. Voilà un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, parce que vous avez des magazines féminins entre autres. Tous les ans, on va vous publier encore et encore des régimes minceur express. Alors c'est soit pour être beau sur la plage ou tout simplement pour votre santé. Donc certains ont besoin de perdre du poids. Alors là encore, c'est l'illustration de dire, pour certains, c'est pas un problème, et pour d'autres, c'est une bataille de toute la vie. Donc, dès que la décision sera prise, ça ne vous concerne pas ce sujet, vous transposez, vous mettez autre chose dans votre vie. Mais dès qu'une décision est prise, les occasions vont se multiplier. Donc, par exemple, vous avez décidé, ça y est, maintenant, je prends ma santé en main, je vais perdre du poids, ou je vais faire ceci, cela. Alors là, les occasions se multiplient. Les invitations, les fêtes. Donc, en Alsace, c'est spécialement difficile, cette notion, mais c'est une région de gastronomie. Et dans d'autres pays du monde, et c'est ça qui est tragique dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a des endroits où on mange trop, et on a des problèmes avec ça, et d'autres endroits où on mange pas assez. Mais c'est comme ça, on ne va pas disserter maintenant sur l'économie mondiale. Mais simplement, déjà, vous avez vos amis sur Facebook, ils partagent les assiettes au moment où ils sont au restaurant, ils publient des photos, voilà ce que j'ai mangé ici et là. D'autres vont vous mettre les photos, voilà le dessert que je viens de réaliser. C'est très intéressant de voir, au mois de juin, il y a aussi des fêtes de partout. Les associations, les écoles, tout le monde fait sa fête de fin d'année. La fête de la musique, ça a été distribué hier dans le Val de Moder, donc tout de suite, fête de la musique principalement, mais il y aura des tartes flambées, des grillades et la buvette, parce qu'il n'y a aucune fête en Alsace où il n'y a pas de tartes flambées pratiquement, ça n'existe pas. Et donc régulièrement, et c'est ça qui était intéressant, vous aurez des gens qui vont vous dire « laisse-toi tenter ». J'avais jamais entendu cette expression. Et donc, alors ne répondez jamais « je me laisse tenter ». Non, là, dès que le mot « tentation » arrive, il y a un signal d'alarme qui doit se mettre en route. Voilà, le feu rouge, attention, si je fais quelque chose, je dois le faire consciemment et parce que je l'ai décidé. Et pas parce que « oh, j'ai pas fait attention, je me laisse tenter ». Non, on ne se laisse pas tenter. On le prend une ferme décision. La Bible dit « tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. » Si ce n'est pas quelque chose où vous êtes convaincu que c'est bon pour vous ou que vous allez le faire, ne le faites pas. Péché, ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est rater le but. Rater le but pour vous, pour votre vie. Donc, on continue la liste. Dans ce domaine, je voulais maintenant illustrer ce sujet. Les fenêtres sont ouvertes puisqu'il fait chaud. Alors, on sent les odeurs de repas des voisins. Quand on a déjà mangé, vous sentez encore les odeurs de barbecue autour de vous ou des choses comme ça. Et donc, pour certaines choses par rapport à la tentation, des pensées viennent en nous en disant « c'est pas grave puisque tout le monde le fait ». Quelqu'un qui a écrit, je ne sais plus quoi, des livres, des réflexions et tout, il a dit, la souffrance, ce n'est pas grave, puisque tout le monde le fait. C'est une phrase très intéressante, parce que ça veut dire, on peut donner à une phrase un sens parfaitement ridicule. La souffrance, c'est grave, et c'est désagréable. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tout à coup ça devient normal et acceptable. Donc de la même façon, par rapport à certaines tentations, certaines épreuves, ce n'est pas normal ou acceptable. On parle aussi de l'expression des péchés mignons, en particulier justement avec la nourriture, les friandises ou d'autres choses, des péchés mignons. Cette chose n'existe pas, un péché mignon, il n'y en a pas. Il n'y a aucun péché qui est mignon. Donc tôt ou tard, hélas, il ne faut pas prendre un tournure dramatique, mais la Bible dit simplement le salaire du péché, c'est la mort. Donc qu'on meure d'un seul coup ou à petit feu, le résultat final, c'est la mort. Donc ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons, au contraire, la vie de Dieu. Et rappelez-vous que ce que vous tolérez, vous ne pouvez pas le changer. S'il y a des choses que vous trouvez acceptables et normales, vous n'allez faire aucun effort pour que ça change. Encore dans le même ordre d'idées, quand on est invité, il faut honorer les personnes. Donc vous allez manger, vous allez reprendre le gâteau, vous allez faire plein de choses comme ça. Je suis impressionné aussi, quand j'ai l'occasion de regarder un peu les publicités, vous pouvez avoir n'importe quelle émission. Il y a maintenant plein d'émissions culinaires aussi, avec toutes sortes de jeux et de concours. Et dans les pages pub, on vous met plein de nourriture qui n'a rien à voir avec le sujet de l'émission. Même des fois, c'est à contre-sens de ce que l'émission est en train de vous montrer. Parce qu'on va vous montrer, par exemple, des habitudes pour la bonne santé. Et là, on va vous vendre de la nourriture industrielle spécialement mauvaise pour votre santé. Mais il y aura le petit bandeau en bas pour votre santé. N'abusez pas, etc. Alors, dites-moi franchement, qu'est-ce que le spectateur va retenir ? Le slogan en bas de la petite phrase ou les belles images de couleurs et la musique et toute l'ambiance de ce qui est fait ? C'est vraiment se moquer du monde que de mettre ce truc en bas et de passer ces choses. Donc, on fait de belles présentations, mais... Il y a le petit bandeau, donc tout va bien. C'est comme toutes les pubs pour l'alcool, et puis après on dit, pour votre santé, n'abusez pas de l'alcool. Comme si maintenant c'était réglé. Donc, à nouveau cette notion de, si on ne peut pas vous dire radicalement, c'est mauvais pour vous, arrêtez, on va vous dire, doucement avec ça, n'en fais pas de trop. Donc on est de nouveau dans la notion de péché mignon. Comme c'est mignon, pas si grave. D'accord, ça passe. Donc, cette assurance de la victoire, c'est quelque chose que vous allez développer en vous pour que vous puissiez affronter. Quel que soit donc votre problème, vous aurez un défi et il y aura le même mécanisme qui va se manifester. Et ce mécanisme, cette façon d'y réagir, il faut déjà être conscient d'un certain nombre de pensées. Je l'avais cité tout à l'heure. C'est trop fort pour moi, j'ai pas rien pu faire, je ne sais pas résister à ça. Je suis comme ça, c'est tout. Il faut m'accepter comme je suis. Ça, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup maintenant. Les gens ne font plus aucun effort pour se changer. Ils disent, je suis comme ça. C'est apprendre ou à laisser, terminé. C'est aussi l'écrivain Oscar Wilde, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a lancé cette fameuse phrase « La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder ». Et cette phrase est reprise encore et encore et encore. Cet homme-là écrit dans les années 1870, par là. Et donc voilà, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il n'a pas vécu longtemps. Donc, le verset clé de ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est que Dieu prépare un moyen d'en sortir. Et c'est le mot important pour nous, la préparation. Pour ne pas se faire piéger, il faut être prêt et décider. Ça veut dire qu'on fait des préparations à l'avance. On décide à l'avance de certaines choses. Avant d'être en plein milieu, dedans, dans la situation, dire « comment je vais m'en sortir ?» Donc Dieu prépare certaines choses, il nous prépare le moyen, il nous montre le moyen, et ça m'amène à la deuxième assurance que je voulais partager avec vous, l'assurance de sa direction. Non seulement Dieu nous donne l'assurance qu'on peut triompher, d'une épreuve, d'une tentation, mais aussi il prépare et il nous montre comment sortir. Donc on peut être assuré que Dieu veut nous diriger. Proverbe 3, verset 5 et suivant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Et là, une chose intéressante, il nous dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il n'est pas dit, n'utilise pas ton cerveau. Mais il est dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. La différence est importante. Des fois, on a pensé, la foi chrétienne, c'est on fait abstraction de notre intelligence et on croit bêtement, entre guillemets, ce que d'autres nous disent de croire. Mais c'est pas ça. S'appuyer sur la sagesse de Dieu, sur la parole de Dieu, c'est une façon de nous laisser diriger. Après, on peut aussi utiliser notre cerveau. Donc, certains disent à tort et à travers, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est assez difficile, après, d'engager un dialogue. Si Dieu te l'a dit, qui suis-je pour contester, Alors, mais pourtant, il faut pas qu'on en ait peur. Il faut qu'on remette en question certaines choses. En général, on dit toujours, il se prend pour Jeanne d'Arc quand il entend des voix. Mais la Bible nous dit que Dieu parle. Donc, il n'est pas surprenant que de temps en temps, il y ait des gens qui entendent quelque chose de lui, d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais quand même vous dire que, par exemple, Joseph Smith, le fondateur des Mormons, il avait 14 ans quand il a eu sa première vision. 14 ans. Si maintenant un ado de 14 ans venait me dire, peuple chrétien, je vous déclare ceci, cela, Dieu m'a dit que tout ce que vous faites jusqu'à présent, c'est archi faux, c'est seulement moi qui sais, on mettrait un bémol. Mais le côté tragique dans l'humanité, c'est que des millions de personnes ont placé leur confiance et leur salut entre les mains de Joseph Smith. C'est l'un des plus remarquables faux prophètes de l'histoire de l'humanité. 3 ans après, il avait la vision, soi-disant, d'un ange qui lui révèle des plaques secrètes enfouies où il y avait de l'Égyptien ancien qui était écrit que personne ne pouvait traduire, sauf lui. Et ça a donné, un mouvement totalement erroné qui ça fait frémir. Mais cette chose se réalise encore et encore. Voilà pour certains qui disent trop facilement « Dieu m'a dit que ». D'autres disent, autre catégorie, je n'entends rien. Dieu me parle pas. Peut-être parce que pendant que tu parles, tu n'es pas capable d'écouter. Un dialogue, ça doit se faire avec des moments où l'un parle et puis l'autre parle. On sait qu'on a beaucoup d'efforts à faire, certains plus que d'autres encore, parce qu'il y a des gens qui, au lieu d'écouter, ils pensent déjà ce qu'ils vont dire. Pendant ce temps, ils n'écoutent pas. Et ça va aussi avec Dieu. Pendant qu'on lui parle dans la prière, on n'entend pas de réponse et on dit déjà la suite. Donc si vous avez prié pendant 1 heure, ça ne veut pas dire que pendant 60 minutes, vous n'avez pas arrêté et c'était un flot de paroles continu. Ça veut dire que pendant 60 minutes, vous avez peut-être eu un dialogue, il y a eu des paroles, il y a eu des temps d'écoute, il y a eu des silences, il y a eu de la méditation. Tout ça, ça fait partie d'une vraie relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on veut un peu démystifier aussi le côté mystérieux de la prière. Et donc, des fois, on n'est pas capable d'écouter. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Mais ça serait quand même étrange que Dieu ne veuille pas communiquer avec sa créature en disant, j'ai tout mis en place il y a des milliers d'années, et puis maintenant, hop, il se débrouille. Mais non, on voit tout au long de la Bible que Dieu dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, et l'Éternel dit au prophète, à Abraham, à tous, il a parlé, et maintenant il ne parlerait plus, ça serait quand même étonnant. Donc on devrait quand même être les champions de l'écoute de Dieu. Alors là encore, on a toute cette culture populaire, les voies du Seigneur sont mystérieuses et impénétrables. Alors le mystérieux, c'est très simple, il nous est dit dans la Bible qu'il y a certaines choses qui sont des mystères. Un mystère, ça veut dire c'est quelque chose de caché. Ça restera mystérieux jusqu'à ce que ce soit révélé. Or Dieu veut le montrer, révélé. C'est pour ça qu'il a donné le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, où il révèle certaines choses. Et certains passages de la Bible sont encore un peu obscurs. On a beau les étudier, des fois on ne comprend pas. Parce qu'à un moment donné, ça sera révélé quand on en aura besoin. On n'a pas besoin de voir tout, début jusqu'à la fin. C'est une révélation progressive. Donc, mystérieuse et impénétrable, ben non, pas impénétrable, puisque le Saint-Esprit nous a été donné pour nous révéler, on va le voir tout à l'heure. Donc, avec ça, j'ai dit, utiliser notre intelligence, parce qu'il faut vérifier. Mais la plupart du temps, personne ne veut vérifier les directions de Dieu. Les gens disent, ils l'ont dit à la télé. Ben, il y a des choses bien qui sont dites à la télé, et il y a des choses qui sont dites, ben, vous et moi n'avons pas toujours les moyens de vérifier sur place. On ne peut pas dire est-ce que cette info est juste. Alors, on a un capital de confiance qu'on accorde plus ou moins à certaines personnes, mais on sait qu'il y a aussi de l'intox, qu'il y a de la désinformation, qu'il y a de la manipulation. Alors, il ne faut pas qu'on soit trop paresseux pour vérifier certaines choses, sinon on se laisse entraîner. Et là, c'est spécialement vrai spirituellement. Il faut qu'on vérifie. Donc, il faut vérifier. Ensuite, mon quatrième point par rapport à la direction, c'est qu'actuellement, il existe un moyen moderne qu'on peut utiliser dans les véhicules, le GPS. D'accord ? L'intéressant dans l'illustration avec le GPS, c'est que c'est guidé par satellite, donc c'est une vue d'en haut. Mais dans notre vie aussi, on a besoin d'une vue d'en haut. Comment Dieu voit les choses ? Pas seulement comment nous on voit. Maintenant, ça va être bientôt le moment du Tour de France. Et je pense souvent, quand les cyclistes ils se lancent dans la course, bah, ils étudient le parcours un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que pendant ils ont le nez dans le guidon, comme on dit, ils savent forcément tout ce qui vient après. Par contre, vous, maintenant, quand vous regardez l'émission, que vous voyez cette course, souvent vous avez les vues d'hélicoptère. Et c'est très intéressant parce que vous voyez déjà, par exemple, si c'est dans un village, après la maison, comment ça va être, est-ce qu'il va y avoir des pavés, est-ce que ceci, cela. Et c'est un petit peu la même chose pour nous. Nous, on est dans notre course, mais lui, d'en haut, il voit des choses que nous ne voyons pas aussi bien. Donc, autant se laisser aussi guider d'en haut. L'autre aspect, numéro 5, c'est être guidé par quelqu'un qui a déjà été. Mes parents sont là en particulier. Autrefois, on faisait des balades en forêt. Et des fois, il y avait des gens qui faisaient d'abord, ils repéraient les lieux, ils voyaient où on va mettre la voiture, où ce sera l'endroit du pique-nique, etc. Si on partait juste à l'aventure comme ça, on aurait peut-être pu passer une mauvaise journée. En se perdant, en faisant des détours, en arrivant à un endroit où c'est pas bien du tout. Alors que avoir quelqu'un qui a déjà été, qui connaît le chemin, ça c'est la définition d'un guide. D'accord. Je parlais tout à l'heure aussi de Rick Renner. C'est quelqu'un qui habite à Moscou, en Russie. Et donc, il y a un fameux musée à Moscou. Et donc, beaucoup de gens, quand ils viennent le voir, ils aiment voir ce musée. Et là, vous avez des pièces absolument incroyables, des bijoux des tsars, des choses anciennes. Et ce musée est immense. Et il est dit, vous pouvez alors passer toute votre journée dans ce musée. Et ça peut être ennuyeux. Et vous pouvez être fatigué, et vos jambes sont fatiguées, et vous marchez, et vous cherchez l'endroit où il y a les toilettes, etc. Il a dit, mais vous pouvez aussi y aller avec un guide, et lui vous montrera les choses qui vous intéressent. Il les rendra intéressantes parce qu'il saura vous donner des explications qui vont vous rendre la chose vraiment passionnante. Et si vous avez besoin de vous reposer, il dira, voilà, là il y a un endroit, vous pourrez vous asseoir. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il dira, c'est pas loin, etc. C'est des petits détails de la vie de tous les jours, mais qui font la différence entre un chemin qui aura été agréable ou un chemin qui aura été désagréable. Pour nous, c'est pareil. Il faut qu'on s'adresse à quelqu'un qui connaît la route, qui a déjà été sur l'endroit et qui sait ce qu'il nous faut. Donc, pour vérifier tout ça et pour avoir de l'assurance, on a 2 Corinthiens 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, à un moment ou à un autre, ça passe par une étude de la parole de Dieu. On ne peut pas faire le raccourci. Il faut qu'il y ait à un moment donné le contact avec la parole de Dieu. Et maintenant, plus personne n'a d'excuses. Hein. Tellement de moyens. On peut lire la Bible sur papier, dans je ne sais combien de versions. Ça peut être du français courant, ça peut être du avec concordance, avec explication, avec des détails historiques, avec plusieurs versions, avec des formats de audio, des formats où on peut lire, des choses sur tablette, sur ordinateur, sur tout ce que vous voulez. Donc, il y a des endroits qui ne sont pas aussi privilégiés que nous, mais nous, on a la possibilité. Là, il faut se laisser conduire par le guide pour lire au bon endroit aussi. Parce que sinon, vous allez être comme dans le musée. Vous allez passer des heures et des heures à vous ennuyer et ne pas lire les choses où Dieu vous parle. Mais il y a des choses où il va vous diriger. Alors pour ceux qui disent « Oh, je n'aime pas lire », je crois qu'on aime tous lire des choses qui nous intéressent. Hein? Dès qu'il y a un intérêt, tout à coup, il y a aussi une capacité de lire. Et c'est ça qu'il faut développer. Ça ne veut pas dire que vous devez vous astreindre à un exercice pénible de lecture pendant des heures. Mais quand vous êtes attiré pour quelque chose, alors vous allez le lire. Même des fois, si c'est des petits caractères, on peut prendre une loupe, on peut le lire. Non, c'est juste pour dire qu'on ne peut. Et ça ne dépend pas forcément de la quantité. Des fois, on peut aussi dire « j'y comprends rien », c'est comme une langue étrangère, parce que la Bible dit que c'est un langage spirituel. Alors comment on peut le comprendre sans guide ? Eh bien pareil, dans Actes 8, 30, il nous est dit « Philippe l'évangéliste accourut et il entendit l'Éthiopien, c'était le ministre là, qui était sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit « comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme répondit « comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Notre version dit « si personne ne me guide ». Donc Dieu peut envoyer quelqu'un sur notre chemin pour nous aider. Vous voyez, pas seulement la Bible, mais on a aussi des livres qui expliquent la Bible. On a aussi des gens qui peuvent vous instruire ou répondre à vos questions. Et des fois, certaines choses aussi, heureusement, le Seigneur le fait lui-même par le Saint-Esprit. Dans Jean 16, au verset 13, il nous est dit « quand le terme grec, c'est paraclet, viendra ». Paraclet, ça a été traduit par plusieurs mots. Ça peut être avocat, consolateur, défenseur, celui qui se tient près de nous, etc. Tous les aspects du ministère du Saint-Esprit. Quand donc le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc il vous aide et il vous rend capable de comprendre certaines choses que vous lisez ou que vous découvrez. Vous vous rappelez les disciples d'Emmaüs, il nous est dit, l'événement de la mort de Jésus était tellement tragique pour eux, ils étaient découragés et ils ne savaient pas ce qui était en train d'arriver. Et il dit, au moment où Jésus a rompu le pain devant eux, il dit, leurs yeux se sont ouverts. Tout à coup, ils ont eu la révélation. Donc le tout à coup nous intéresse aussi. Hein. Quelque chose que Dieu fait, où tout à coup, on comprend. Donc, en conclusion, je dirais juste ceci encore. Dans l'Apocalypse, Jean nous décrit le ciel et nous dit qu'il y aura au ciel le trône de Dieu. C'est dans le chapitre 4. Ce trône de la grâce, il existe réellement. C'est une réalité. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit ou quelque chose de notre imagination. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons la manière que nous devons venir à Dieu dans la prière. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec
assurance.
Vous voyez, c'était notre mot-clé. Assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, une autre version dit miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Secouru au moment opportun, ou d'autres disent trouver du secours dans nos besoins. Donc ça, c'est un aspect, donc pour vous encourager encore plus à venir avec assurance. Toutes ces choses que nous avons dites, faites-les avec assurance. Assurance du salut, assurance de l'exaucement, assurance du pardon, assurance de la victoire. Et maintenant, assurance de la direction. Avec ça, vous êtes vraiment équipé pour dire, waouh, avec ça, je vais à Dieu. Il n'y a plus rien qui me retient. Et maintenant, encore pour votre check-up intérieur, hein, de savoir où vous en êtes, un verset qui va bien avec aussi, c'est dans 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qu'il est agréable. Pour dire ça, c'est fort. Quoi que ce soit que vous demandiez, vous allez recevoir. Mais enfin, ça peut exagérer. Hein. Mais il dit parce que notre cœur ne vous condamne pas. Si vous demandez quelque chose qui est insensé ou complètement en dehors de la volonté de Dieu, votre cœur, il y a quelque chose qui se manifeste. Vous allez savoir que non, c'est pas ça qu'il faut demander. C'est pas dans cette direction que Dieu veut donner. Et donc, il nous a dit, voilà, nous le recevons parce que nous faisons ce qui lui est agréable et voici quel est son commandement. On pourrait dire, voici ce qui est agréable à Dieu. C'est premièrement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Alors, allons-y, parlons à Dieu, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment, avec assurance. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.